Bien sûr,
avec plaisir, et je viendrai l'accompagner.
Évidemment, vous serez son accompagnant. Merci encore.
Merci à vous.
Programmation musicale, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, c'est Jean-Baptiste Audibert. À suivre, c'est Odé mon amour, il a 18 ans, la nature, le vivant, son sa boussole. Victor Noël sera à bord de la Moselle dans c'est Odé mon amour. Denis Chessou, Monsieur Nature, bien sûr, sur France Inter.
Le 12 août 2022, Salman Rushdie est sauvagement agressé. Pour répondre à cette violence, l'écrivain choisit la littérature. Le couteau de Salman Rushdie, le livre événement aux éditions Gallimard.
France Inter, il est 14h. Le Flash, Marion Ferrer.
Les efforts de négociation pour une trêve dans la bande de Gaza se multiplient. Le Hamas assure étudier une contre-proposition soumise par Israël, conditionnée à la libération des otages. Une délégation donnera sa réponse demain en Égypte. La situation des civils palestiniens, elle, continue de mobiliser partout dans le monde, notamment les étudiants. Exemple aux États-Unis, en Angleterre ou encore en France, où le blocage de Sciences Po Paris par des étudiants pro-palestiniens divise la classe politique, notamment chez les Républicains. Sur France Inter ce midi, dans Questions politiques, le député LR Aurélien Pradier se dit opposé à la suspension des aides publiques envers l'établissement. Mesure pourtant réclamée par la tête de liste de son parti aux Européennes, François-Xavier Bellamy. La mort la nuit dernière d'un jeune de 19 ans à Marseille, touché par balle à la tête près d'un point de deal. Les auteurs des tirs ont pris la fuite. Un nouveau drame lié au trafic de stupéfiants et au règlement de compte, alors que le ministre de la Justice annonce ce matin vouloir renforcer l'arsenal judiciaire contre le crime organisé. Dans la tribune du dimanche, il explique vouloir créer un tribunal dédié et instaurer un statut de repenti, proposer aux anciens trafiquants de travailler avec la justice contre une réduction de peine et une nouvelle identité. À Châteauroux, dans l'Indre, c'est un adolescent de 15 ans qui a été tué à coups de couteau hier au cours d'une rixe entre jeunes. Son agresseur présumé a été interpellé, un mineur de 17 ans, connu des services de police. La guerre en Ukraine, la Russie assure poursuivre son avancée. Moscou revendique ce dimanche la capture d'un nouveau village situé sur le front est des combats. Hier, plusieurs centrales thermiques ukrainiennes ont été endommagées par des missiles russes. Le pape en visite à Venise, le souverain pontife dont la santé est fragile, a réalisé son premier déplacement depuis 7 mois. Depuis la place Saint-Marc, il a célébré une messe devant 11 000 fidèles. Il en a profité pour mettre en garde contre le changement climatique et le surtourisme, deux phénomènes dont la cité des Doges est victime, en danger notamment face à la montée des eaux. Depuis cette semaine, l'entrée dans Venise est payante pour les touristes, mesure prise pour limiter l'affluence dans la ville. Le sport, le football et la Ligue des Champions. Un club français sera en finale, place qui va se jouer entre le PSG et l'OL. Match retour de la demi-finale cet après-midi au Parc des Princes. À l'aller, ce sont les Lyonnaises qui se sont imposées 3-2. Coup d'envoi à 16h.
France Inter, 18h, Charline Vanhoenacker.
Le dimanche, avec toute la bande, on se retrouve en direct et en public et avec un invité. Ce week-end, c'est Corinne Maziero.
Le grand dimanche soir.
C'est tous les dimanches sur France Inter, après le journal de 18h.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
14h04 sur France Inter, l'heure de CO2. Mon amour, on vous retrouve, Denis Chessou. On vous retrouve aujourd'hui au bord de la Moselle.
Avec un jeune naturaliste de 18 ans, Victor Noël. Merci Marion Ferrer, on vous retrouve à 15h.
CO2 mon amour, avec le WWF. Ensemble, protégeons les espèces menacées. Rendez-vous sur transmettre.wwf.fr.
C'est pourquoi c'est un garçon ou une fille?
Un tout petit qui va avoir une vie magnifique.
Ou bah, CO2 mon amour.
Bah quoi, c'est pas vrai?
Non mais regardez autour de vous, vous nous laissez un monde tout pourri.
Mais qu'est-ce qu'on vous a fait?
Denis Chessou.
Ce que vous m'avez fait, ma petite dame?
Mais votre génération est à l'origine de tous les fléaux du monde moderne. La mondialisation, hein, l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensive, les paradis fiscaux, la communication, tout! En 80 ans, vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources. Vous faites tous les poissons.
Mais vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité.
Et un malheur volant jamais seul.
Bah vous vivez hyper bien.
Sur France Inter.
Ah, et mon bébé, bah, il vous dit merde.
Eh bien, joie, bonheur et bienvenue dans ce monde merveilleux. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce haut de mon amour. Ça va être un peu plus zen, la nature chuchote donc à vos oreilles avec Rémi Sissiaga à la technique. Notre collaboratrice c'est Camille Blanès et c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Un petit peu dans la suite, tiens, tenez, apparemment la seule cible que n'aura pas impacté le bouleversement climatique, c'est le cerveau blindé de tous les sceptiques en hausse à travers le monde, ouais, et convaincus que rien n'entravera la marche inexorable du progrès, surtout d'ailleurs sans chercher à le définir. Tant que leur jardin personnel ne sera ni bousculé par une faille tellurique, un effondrement de carrière, une submersion de maisons les pieds dans l'eau ou l'installation d'une éolienne, tout reste pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? On ne peut rien y faire. Et puis sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Bon, alors zen, on respire. Les scientifiques ont beau remuer ciel et terre médiatique depuis des décennies, coller des capteurs au fond des aires marines protégées de Bretagne, on ne sent pas une opposition farouche d'ailleurs du Conseil régional pour continuer à chaluter en rond comme avant, ratissons un jour, ratissons toujours, sinon ce seront les autres qui le feront. Oui, mais on est dans un monde fini. Oui, mais ça on s'en fout. Sur l'autre épaule de la France, en Alsace, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg en appelle aux scientifiques plus qu'à Dieu et ses gargouilles pour ausculter sa flèche qui encaisse les variations du climat. Alors elle a fait fi des guerres, des incendies, mais la plus belle flèche du monde ne peut donner que ce qu'elle a face aux pluies gorgées de sel qui lèchent trop la pierre, en s'infiltrant dans le très beau grès rose. Alors le ciel la sauvera-t-elle des méfaits du ciel et des humains qui l'ont déréglé ? Mais l'augmentation du CO2 ne se met pas sur pause. Alors vous avez des études similaires qui ont lieu sur le site granitique de Bibracte, sur la chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer en calcaire et décorée par Cocteau. Et ce dernier disait « Le drame de notre époque, c'est que la bêtise s'est mise à penser ». Alors les scientifiques sont désabusés ou en colère de ne pas être écoutés. Autant cracher dans les viscères de poulet offerts en vain aux dieux. La pitié ne fait pas recette. Les foules regardent ailleurs. L'avenir s'annonce encombré d'orages lumineux. Rien ne bouge dans les bunkers. À l'extérieur, c'est la panique. Tout le monde court sans directive dans les coursives. Et les monstrueux navires de croisière défoncent toujours les fondations de Venise. On crie à tu et à toi, on signe des pétitions à tour de bras contre le bitume, les chaînes qu'on abat. Les coins amoris surfréquentés grâce aux applications GPS, oui, non, vraiment. Les 16 millions de touristes aux Canaries. Et pour l'eau potable aussi, qui manque et dessèche nos belles Pyrénées orientales. Alors tout cela au moment où le peuple en déroute réclame de l'ordre, de la discipline, de la sécurité, des médecins, de l'âme et du corps. Et pas question de ramasser les ordures en ville ou de nettoyer les bureaux à l'aube, laissons cela à ceux qui n'ont rien. Et cette chanson-là, dans les bunkers, on sait très bien l'entendre. Mais les talents, les meilleurs talents du pays ont su conjuguer leurs efforts pour remonter en quelques années les voûtes, la charpente de Notre-Dame de Paris. Alors vous voyez bien quand même, on est aussi capable du meilleur. De l'air, ça va être au bord de la Moselle. Et oui, donc ce week-end, ce dimanche, parole à un jeune naturaliste, Victor Noël, donc en bord de Moselle, qui racontera ses combats, ses émerveillements et ses espoirs.
Ses bas gris dans ses eaux bleues m'ont s'accroché à l'arbre, ma vie m'a prise, je suis au fer, presque à ton bras, deux pas pour le bas, trois sur le côté, passer lentement sous le ciel qui chante. Je sais habiller sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste, en nous ça tourne à travers. Le jour m'empêche en joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était qu'un doux rêve, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche.
Les suivre jusqu'au ciel
et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve,
sans faire de beau dimanche,
sans faire de beau dimanche.
Rampa, le Marion et Belin Bertrand étaient demandés au parloir. Ben c'est assez réussi. Ça s'appelle donc De Beaux Dimanches, vous l'avez compris. Et dans ce beau dimanche, où partons-nous? On va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Victor Noël.
Ben ici, on est juste au bord de la Moselle, un bout de Moselle sauvage qui n'est pas canalisé. Et donc, on a ces îlots qui parcourent la Moselle et qui donc forment des lieux de quiétude pour les oiseaux. Depuis tout petit, je viens ici. Alors d'abord, c'est vrai, c'est surtout mon jardin qui a développé un peu un attachement, une curiosité pour le vivant, mais aussi cette Moselle, quoi, où j'ai commencé à faire de la photo, où j'ai commencé à observer les oiseaux d'eau. En septembre, octobre, il y a les balbuzards pêcheurs qui passent. Là, maintenant, il y a les sternes qui viennent d'arriver. Donc, c'est des coins comme ça qui peuvent sembler un peu anodins, mais quand on en est attaché, c'est assez important. Et puis, quand on est attaché à un lieu, mais pour les espèces qui y vivent, eh ben c'est un rapport complètement autre, parce que on n'est pas juste attaché au côté minéral, au côté, mais vraiment à son caractère vivant. Et donc il y a quelque chose de beaucoup plus, un rapport beaucoup plus réel à ce milieu, quoi. C'est pas juste un simple décor, c'est un écosystème complexe, c'est un lieu de, ben, finalement où les espèces échangent, interagissent les unes avec les autres. Et donc ça renforce encore plus l'attachement qu'on peut avoir pour les milieux, quoi. C'est pas juste du minéral ou de la topographie, c'est du vivant, quoi.
Rendez-vous sur les bords de la Moselle, donc, vers Agondange, à 15 km à peu près au nord de Metz, en direction de Luxembourg. Et nous sommes sur les chemins du vivant, qui est le titre donc du livre de Victor Noël, 18 ans, avec ce carnet de route d'un jeune naturaliste engagé aux éditions Delachaux et Niesley, donc sur les chemins du vivant. Alors la commune de Platigny n'est pas si loin, mais les terrains de foot n'ont pas exactement la diversité recherchée par notre jeune explorateur du vivant. Il préférera toujours donc la chicorée sauvage sur le trottoir, butinée par un insecte, l'aubépine, le cornouiller, le prunelier, la ronce généreuse, aux haies plutôt uniformisées des zones pavillonnaires. Alors il se pose la question toujours, pourquoi le vivant est-il si malmené ? Le nord et l'est de notre pays ont fourni le charbon, et ont réussi d'ailleurs. Ici, dans ce coin de Lorraine, eh ben, c'est l'acier. Après la déprise industrielle et ses douleurs sociales, eh ben, la nature s'est de nouveau invitée. Oui, elle a horreur du vide, on le sait, et elle s'étale comme elle peut, là voilà, un peu partout. Entre étangs, mares, friches industrielles, la vie ordinaire est là et elle passionne Victor, que j'avais rencontré quand il avait 15 ans. J'avais le désir de le retrouver quelques courtes années plus tard sur le bord de cette Moselle, de sa Moselle, hein, c'est sa rivière d'enfance et d'observation. Donc aujourd'hui, un autre lieu dans notre herbier de paysage, dans le carnet de nature de CO2 Mon Amour, et avec un garçon, je veux dire, à la lucidité, la maturité, l'engagement et au désir assez stimulant.
Ouais, bah donc ici, c'est un bout de la Moselle, tiens, le col vert qui décolle, c'est un bout de la Moselle qui n'est pas canalisé, qui est assez sauvage. Alors c'est pas la Moselle sauvage de la Meurthe-et-Moselle, mais c'est quand même un coin assez intéressant. Ouais, tu vois les grands saules de l'autre côté qui servent de perchoir aux cormorans notamment. Puis tu vois, il y a les petites îles, les îles au milieu de la rivière qui, ben, c'est un peu des lieux de quiétude pour les oiseaux. Alors là, le niveau, il est assez haut, mais habituellement il y a plus d'îlots et de petites bandes de gravier où t'as des limicoles qui viennent se nourrir.
Alors qu'est-ce qu'on va voir là? On va pas les déranger. Non, ça... Ah, oh, bah d'ailleurs, quand je vois un oiseau, moi je me dis, tiens, c'est un dinosaure.
Bah oui, tout à fait, ouais. Alors c'est pour ça que je commence, mon bouquin, il commence au bord de l'eau, pour rappeler notre histoire. Et notre histoire, celle des vivants, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 3,8 milliards d'années, le vivant est apparu sous forme unicellulaire. Et de ces premiers êtres unicellulaires, on descend tous finalement. Moi, toi, les orties qui poussent là à nos pieds, le colvert qu'on a vu tout à l'heure, les saules qui sont là, les bactéries qu'on a dans notre système digestif.
La même source.
Voilà, c'est ça. Il y a 3,8 milliards d'années, toutes ces espèces ne faisaient qu'une. Et donc ça nous remet un peu à notre place, ça nous resitue, ça nous recontextualise dans la grande communauté d'espèces vivantes dont on fait partie. Et donc voilà pourquoi ça me semblait intéressant de commencer cette promenade dans mon livre « Au bord de l'eau ».
Là, on est sur les orties. Bah, dis-donc, on pourrait faire de la belle soupe, là, avec tout ça.
Bah ouais. Il y a même du gaillet. Ça a le goût un peu du petit pois frais.
Où est-ce qu'il est tombé? Ah oui,
je l'ai vu tout à l'heure, alors là, je sais pas. Mais
c'est,
là, ici,
si,
là,
si,
voilà.
Là, ouais. Il ressort sa petite tête.
Tu regardes le milan.
Oui.
Le milan noir. Qui peut se nourrir un peu des poissons. Bon, c'est pas ce qu'il mange principalement,
non,
mais
il
peut quand même...
Ouais. Ah, qu'il est beau, celui-là. Oui.
Ah, puis tu vois, là, une sterne. Elle vient tout juste de revenir de migration. Et donc on ira peut-être tout à l'heure, il y a un îlot à côté sur un étang qui appartient à l'LPO où il y a l'ensemble de la population de sterne Pierre Garin de Moselle qui niche là.
Ah, celle-là elle fait quoi? Elle fait pas le tour de la planète quand même? Non,
alors non, c'est celle qui passe de l'Antarctique à l'Arctique, c'est la sterne arctique, voilà. Ils se ressemblent beaucoup. Mais la Pierre Garin, elle se reproduit chez nous, puis elle hiverne, je crois, en Afrique subsaharienne, donc elle fait quand même beaucoup de kilomètres, mais moins que sa cousine, la sterne arctique.
Oh, on a quand même, c'est sympa, on a quand même quelques libellules. Alors ça, on est dans la famille des odonates. Les œufs deviennent donc des larves et après, comment ça se passe?
Oui, c'est ça. En fait, les odonates, que ce soit les libellules ou les demoiselles, comme on dit communément, ou les agrions, ils passent plus de temps dans l'eau que dans leur vie aérienne, en fait. Il y a même des libellules qui, ça peut aller, je crois, jusqu'à 5 ans de vie larvaire sous l'eau. Bon, la majorité, je crois que c'est plus un ou 2 ans. Et ici, le long de la Moselle, c'est un spectacle assez incroyable. Surtout des agrions. On a par exemple les calopteryx, qui sont ces agrions assez magnifiques, tu sais, à bleu foncé. Alors moi, je connais pas trop les insectes, mais ne serait-ce que comme ça, en posant un seul regard sur les berges, on voit une diversité assez incroyable de ces odonates. Et même une simple mare dans son jardin peut suffire à accueillir les libellules ou les agrions.
8h, là, je sais pas si on en verra, peut-être non, peut-être pas, parce que là il fait pas nuit du tout. Mais merci au castor, sacré écolo, hein, le castor.
Ah ben ouais, bien sûr, c'est un architecte qui sculpte le milieu aquatique. Alors il a ses barrages qui peuvent embêter un peu les agriculteurs qui sont sur les bords de la rivière, mais en fait ça crée des zones humides bénéfiques à de nombreuses espèces. Je crois même que ces barrages peuvent faire des frayères à brochets.
Oui.
Et puis il nettoie la ripisylve, enfin ils entretiennent les roselières en coupant les saules qui repoussent en têtard. Ça fait des zones de nidification pour les passereaux. Et donc le castor qui avait été exterminé complètement de la France entière, il en restait un peu dans le Rhône.
Bah, c'est-à-dire qu'on aimait bien à la fois et sa chair et sa peau.
Ouais, et puis on le considérait comme un poisson.
Et oui.
Alors on le mangeait en vendredi saint, quoi. Bon, il faut le faire
carême.
Quand même pour dire un castor et un poisson.
Non, mais ça c'était les moines de l'époque, ils étaient très futés. On n'a pas envie de bouffer de la viande, mais regardez le castor.
Le castor,
mais non,
il a la queue écaillée, quoi.
Et bien sûr.
Mais du coup, c'est dans les années 80 à peu près que les castors ont été réintroduits le long de la Moselle, vers les Vosges, à la Meurthe-et-Moselle. Et depuis, ils reprennent possession des rivières. Et alors, on ne les voit pas vraiment parce que c'est nocturne. Et on peut les voir en été le soir, mais par contre, ils ne passent pas inaperçus parce que ça passe son temps à travailler, à couper des arbres, à ronger les saules.
On va peut-être changer de lieu là après. Mais en fait, ce coin est toujours attachant parce qu'on sait que l'industrie n'est jamais loin. Et on oscille entre des bouts de nature, comme ça, là on voit personne. Alors évidemment qu'il n'y a rien de sauvage hein, ici. Mais et puis d'autre côté, donc l'industrialisation. Et donc là, donc travail avec la LPO et à côté donc de cet étang et de cette gravière, donc vous avez creusé une mare.
Parce qu'en fait les berges, comme c'est une ancienne gravière, les berges de l'étang sont assez abruptes et donc ça se prête pas vraiment pour les amphibiens et les libellules. Et donc voilà, l'idée a été de creuser cette mare qui peut accueillir des espèces qui ne se retrouveraient pas forcément dans l'étang. Donc c'est pour varier, hein, encore une fois, bah voilà, l'espace et les milieux pour accueillir un maximum d'espèces. Et y a cette idée vraiment de rechercher la diversité partout, à toutes les échelles. Et finalement, c'est ça qui doit nous guider notre œil. Et donc là, il y a la vie qui commence tout doucement à prendre possession de la mare. Il y a déjà des grenouilles, il y a déjà des coléoptères aquatiques alors qu'elle a à peine quelques mois.
Alors ce qui est toujours fabuleux, c'est de se dire que le vivant est toujours allé vers la diversité, toujours allé vers l'abondance, et donc c'est cette diversification qui fait que nous sommes là aujourd'hui, et nous on a de cesse de faire l'inverse et d'uniformiser les choses.
Voilà, le vivant, depuis qu'il existe, il va sans cesse vers la diversité des espèces, la diversité génétique, la diversité des formes, vers l'abondance, vers la complexité. Et nous, culturellement, on est attirés par ce qui va être droit, rangé, uniformisé. Oui, c'est ça, c'est dans notre sens de l'esthétique, dans notre culture. On est partisans de l'ordre. Et donc, finalement, ça nous met en contradiction avec nous-mêmes, parce que nous sommes nous-mêmes vivants. Et l'enjeu est donc de repenser notre vision de l'esthétique, notre vision de ce qui fait sens, de ce qui est beau. Ça peut paraître insignifiant, parce qu'on se dit, bah, à la rigueur, arracher ou pas une plante sur un trottoir, on s'en fout, c'est pas ça qui va... Il n'y a pas d'enjeu autour de la biodiversité.
Non, mais ça dit de... plantain, c'est sympa.
Mais voilà, non, mais c'est de fait renoncer à... Voilà, dans mon bouquin, je termine en disant, prendre les chemins du vivant, de la diversité qu'il recherchait éperdument, c'est de fait renoncer à celui de la destruction. Parce que mécaniquement, culturellement, dans notre rapport à ce qui est beau, la destruction deviendrait incompatible avec notre culture, quoi. L'idée de trouver une pelouse, voilà, une pelouse foisonnante de vie, beau, et pas quelque chose d'impropre, c'est quelque chose qu'on doit développer.
Là, tu m'emmènes-nous ?
Ah bah là, on quitte la mare et on va vers l'étang. Il y a une palissade qui a été construite contre le dérangement.
On prend un chemin de... Je sais pas si les sangliers passent, là.
Il y a pas mal de traces de chevreuils, là.
Ah oui, chevreuils, ça, on voit.
Et donc, en fait, la LPO, elle a pu devenir propriétaire de ce terrain, donc de plusieurs hectares avec un étang et donc des haies, des zones un peu ouvertes, suite à une mesure compensatoire. Donc, en fait, on a construit, pas loin de Metz, derrière Metz, pour ceux qui connaissent à la Zagdonie, le Wave, on a construit un grand centre commercial sur des zones humides. Ouais. Et la compensation, finalement, a fait que la LPO puisse devenir propriétaire de ce terrain. Alors, en soi, c'est super, parce que du coup, maintenant, on peut préserver ce coin. Mais finalement, il y a aussi l'idée de la compensation écologique qui est questionnée, qui est, à mon sens, un peu un permis de détruire. C'est-à-dire que les élus ne vont pas avoir un questionnement sur est-ce que tel projet est réellement utile. Ils vont nous dire, de toute façon, on compense. Il y a ce fameux trio,
éviter, réduire, compenser. Et on va directement sur la lettre C.
Et donc, c'est un discours complètement technocratique. C'est, on va raser des arbres, mais on va en planter trois à côté.
Mais on a bonne conscience, tu vois, Victor, avec ça. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les indulgences modernes.
Ouais. Et il y a une étude qui a été menée notamment par le Muséum d'Histoire Naturelle qui montre que dans 80% des cas, la compensation écologique ne permet pas de compenser la perte de biodiversité.
Ah. Il y a deux choses, soit c'est une petite pelleteuse, ou soit éventuellement c'est un sanglier. Qu'est-ce que c'est là ?
Là, c'est des sangliers qui sont passés. Donc on voit qu'on a ce milieu ouvert, et on a ces sangliers qui sont passés et qui ont creusé ce qu'on appelle des boutis.
Des boutis.
Des boutis. Alors les sangliers, voilà, ils font des boutis et des vermis. Les boutis, c'est quand ils font des trous comme ça, et les vermis, c'est quand ils suivent, c'est plus linéaire, quand ils suivent des galeries de mulots, des racines. Et donc on est dans des espaces naturels comme ça. Des fois, je discute avec des gens, ils me disent c'est du dégât, c'est moche, regardez le dégât. Mais moi, je vois tout le contraire. Je vois une zone qui est bénéfique aux abeilles terricoles qui vont venir creuser leur galerie dans ces zones qui ont été mises à nu. Et puis ici, on voit une boutique qui est plus ancienne où finalement, le cycle de la végétation était remis à zéro. Ça permet une diversité végétale parce qu'à partir du moment où le cycle de la végétation prend de l'âge, le sanglier, lui, il arrive et il remet tout à zéro. Et donc, il y a des plantes qui peuvent... Voilà, c'est... Moi, après, c'est ce que j'ai observé, en tout cas, chez moi.
Là, Victor, tu nous emmènes derrière donc une petite palissade en bois avec une ouverture et avec une vue, on va dire, quasiment imprenable, alors, à la fois sur la nationale et, oui. Et autoroute en direction de Luxembourg, mais surtout un petit îlot avec nos mouettes.
Ouais, avec les mouettes qui sont là. Alors ça, cet îlot, habituellement, il accueille surtout des sternes Pierre Garin. Là, j'ai une petite inquiétude parce que je vois surtout des mouettes. Alors, il y a un peu un équilibre, c'est-à-dire que si un peu de mouettes, ça incite les sternes à venir parce qu'elles voient que voilà, c'est un lieu qui peut être intéressant pour elles. Mais j'ai peur que s'il n'y a que des mouettes, il n'y ait plus de place pour les sternes. Et l'îlot qu'il y a sur l'autre étang, comme il est plus haut, il est moins intéressant pour les sternes. Donc voilà, j'ai une petite inquiétude là-dessus, mais bon, on verra. Pour l'instant, les sternes ne sont pas tout à fait encore installées.
Mais ça, c'est les lois de la nature, c'est-à-dire qu'il y a un moment, une espèce peut en chasser une autre, en déloger une autre, en tout cas.
Elles cohabitent bien, après, c'est juste une question de place. Est-ce qu'il y aura assez de place sur l'îlot? Je ne sais pas.
Ce qui est formidable, Victor, c'est que tu fais partie donc, de ces gens qui sont hypersensibles à cette nature qu'on va dire ordinaire. Je mets bien des guillemets, évidemment, à ordinaire parce qu'elle est aussi extraordinaire. Évidemment que pour rentrer en curiosité et puis aussi en amour avec, on va dire, pour faire très simple, la nature, on a besoin aussi d'animaux un peu emblématiques. Mais toi, tu t'intéresses aux végétaux du quotidien, aux oiseaux du quotidien, aux animaux, aux petites bêtes qu'on ne voit pas forcément.
Oui, justement, ce qui est intéressant avec ça, c'est de dire que la déconnexion entre guillemets qu'on peut avoir au fonctionnement des écosystèmes, l'attention qu'on peut porter aux espèces, elle n'est pas géographique. Hein, souvent, il y a cette espèce de dualité où on voudrait opposer les gens de la campagne et les urbains, de dire que finalement, si on est cette société qui ne comprend pas le vivant, qui est déconnectée, qui n'est pas contemplative, c'est lié aux urbains qui n'ont pas accès au milieu naturel. Mais en fait, la déconnexion, elle n'est pas géographique, elle est intellectuelle, elle est culturelle. On peut très bien vivre en ville, au centre-ville de Paris, être pleinement attentif, regarder ce qui nous entoure, regarder les martinets qui passent, qui nichent à Paris et se raconter leur histoire, que c'est des oiseaux qui passent leur vie en vol et que c'est assez incroyable. Et on peut très bien vivre à la campagne et ne pas être attentif à l'égard des espèces qui nous entourent. Donc la déconnexion, elle est culturelle et intellectuelle, elle n'est pas géographique et ça, pour moi, c'est important de le dire.
Mais oui, et donc une très belle réflexion, alors restez avec nous, nous aurons notre Moselle et aussi zone industrielle. Non, 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 ne fuguez pas, bien au contraire.
Sur les bords de la Moselle, j'avais un amour. Elle me faisait des quenelles, des patates au four. Elle me cuisait des tartes aux myrtilles. Me glissait dans ses lettres des jonquilles. Sur les bords de la Moselle, je prenais le train. J'allais voir Mirabelle les jeudis matins. Dans les squares d'Épinal, on s'envoyait des baisers que l'hiver nous givrait. Sur les bords de la Moselle, sur la voie ferrée, de Nancy à Vittel, mon père travaillait. Il rêvait de l'Orient, de la Perse. En serrant les éclisses des traverses. Sur les bords de la Moselle, j'avais un amour qui me faisait des quenelles, des patates au four.
J'avais 15 ans à peine et je brûlais les vieux navires de guerre qui coulaient.
Simon, qui quand même nous fait rimer amour avec patate au four. Eh ben oui, donc sur les bords de la Moselle, donc Yves Simon, je crois qu'il est originaire de Haute-Marne au départ, mais en tout cas il a eu toute une enfance du côté de Nancy. Donc je vais vous emmener toujours au bord de cette Moselle, pas loin d'une zone industrielle. Alors c'est pas exactement l'endroit où on a envie de passer ses vacances. En revanche, vous avez plein de coins quand même, plein de coins extrêmement sympas en Moselle. Vous regardez le site Tourisme Attractivité, et là vous avez plein de choses. Nous sommes toujours donc avec Victor Noël. Et ce jeune garçon, eh ben, poursuit son voyage et sa réflexion. C'est pas mal, là.
Avec un beau nid de pie avec le toit au-dessus du nid.
Oui. On se met dans un petit repli parce qu'il y a quand même du vent. Voilà. Tu nous emmènes là parce qu'on est vraiment en pleine zone industrielle. Donc, il y a de l'acier qui sort de l'autre côté. On a donc des camions, en veux-tu, en voilà. Et la vie quand même est là. Cette nature que les gens ne regardent pas, elle est là.
Ah oui, les friches, c'est des milieux naturels un peu oubliés. Non seulement qu'ils sont oubliés, qu'ils ne sont pas reconnus comme des lieux qui peuvent être riches de vie, et c'est des lieux qui sont non seulement oubliés, mais qui sont méprisés. Hein, on les perçoit un peu comme des vides à combler. Ah oui. C'est vrai que les friches, elles symbolisent pour nous l'abandon. Et finalement, c'est dans notre prétention anthropocentrique, on ne supporte pas ce qui est abandonné. Et donc on veut à tout prix leur redonner vie, qui a tout prix une nouvelle activité humaine qui se remette en place sur ces zones. Mais pourquoi leur redonner vie? Les chardonnerets, les faucons cresserelles, les cardères ici qui nourrissent les pollinisateurs, les fabacées qui fleurissent ici en été. C'est ça la vie de la friche. Il n'y a pas besoin de lui redonner vie. Est-ce qu'on dit qu'il faut redonner une vie à une forêt? On ne le dit pas. Et en fait, la friche, c'est des milieux assez incroyables où il y a des plantes de tout horizon qui se mélangent, qui se brassent pour faire quelque chose d'assez unique. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une friche qui ressemble à une autre. Voilà, c'est... Oui. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir plein d'espèces. Ah bah, là, on entend l'alouette qui est là, qui niche au sol. Oui. Dans les talus, il va peut-être y avoir des abeilles. Après, quand une friche est détruite, il faut l'éviter. Mais malheureusement, quand une friche est détruite, eh ben, il faut qu'il y en ait d'autres ailleurs, que les espèces puissent bouger. Hein. Le vivant, c'est un mouvement.
Partout dans le monde, les événements climatiques extrêmes se multiplient. Les maux de la Terre peuvent-ils jouer sur notre morale au point de nous angoisser?
Je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais quel monde est-ce qu'on va laisser aux générations futures?
À mon échelle, je me sens un peu impuissant. Ouais.
Une étude menée auprès de jeunes du monde entier confirme cette tendance. 75% jugent le futur effrayant. 45% disent même souffrir d'éco-anxiété.
Victor, en fait, toi, tu as entre guillemets cette chance parce que tu n'es pas touché par l'éco-anxiété. Et pourtant, donc, depuis tout petit, tu t'intéresses à ces sujets. Tu vois bien qu'on n'a pas forcément d'énormément sujets de satisfaction, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, tu arrives à résister à ça.
Oui, je ne peux pas dire que je suis éco-anxieux. Alors forcément, l'anxiété, elle est légitime. Hein, y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à se poser des questions et à s'engager.
Et à travers le climat.
Surtout suite au climat, mais suite à une éco-anxiété qui est légitime. Il ne faut pas que cette éco-anxiété elle soit dépolitisée. C'est-à-dire que c'est un peu le piège du capitalisme, c'est de tout faire reposer sur l'individu.
Et, oui.
Et voilà, c'est de psychologiser. Finalement, vous avez qu'à être un peu plus, comment dire, éco-responsable dans vos vies. Cette éco-anxiété, elle disparaît et tout va bien, et roule ma poule, et le capitalisme peut perdurer.
Et on va faire un peu de développement personnel.
Voilà, et du développement personnel, et tout ce tralala-l'air qu'on peut.
C'est
voilà.
Pas forcément tralala.
Non, mais c'est pas du tralala-l'air, mais dans un contexte voilà, où finalement, on dépolitise tout, oui. Et on fait tout reposer sur l'individu. Oui, c'est un peu du tralala-l'air, ce fait de vouloir tout dépolitiser. anxiété. Alors c'est vrai, cette anxiété, elle est légitime, mais j'avais entendu quelqu'un qui disait ça, je crois que c'était Frédéric Lordon, qui disait oui, éco-anxieux, mais surtout éco-furieux. Donc à partir du moment où on est éco-anxieux, il faut rentrer dans la lutte, il faut rentrer dans le combat de notre temps contre un système destructeur. Alors forcément, quand maintenant on parle d'écologie, d'une société plus respectueuse du vivant, une société de la considération du vivant qui ne respecte pas le vivant uniquement sous un prisme utilitariste, c'est d'abord culturel. Mais il y a aussi tout ce pan politique, et la politique c'est pas un gros mot, tout est politique.
Et non.
Et la volonté politique c'est quelque chose de fondamental. Là actuellement, c'est politiquement on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il était pas pour un droit de la nature supérieur au droit de l'homme. Mmh. Ça dit qu'il l'oppose encore, ce dualisme. On entend parler de presque de robotique, de technologie,
oui,
de la technique. Alors, je suis pas contre la technique, ça peut être utile dans certains cas, mais il faut pas tout miser sur la technique. Le changement, et voilà, il est de l'ordre de la sensibilité. Et voilà, on peut pas
là,
attendre.
Tu viens de dire un gros mot intéressant.
De la sensibilité, voilà. C'est ce qui manque au gouvernement actuel. Ouais. Qui réprime les luttes. Bravo. Voilà. À beaucoup d'humains aussi, ouais. mais voilà. Mais en fait, le capitalisme, il se nourrit des crises qu'il engendre. Donc il peut pas s'auto-corriger. Hein, j'avais entendu quelqu'un dire ça. Ils vont nous vendre le plastique qui va finir dans les océans. Après, ils vont nous vendre le bateau pour aller le chercher. Donc il peut pas se corriger par lui-même.
Alors tu es un garçon absolument de partage. Comment tu fais avec les copines et les copains? Parce que parfois tu peux rencontrer donc ils sont alors ceux qui sont simplement consommateurs, d'autres qui sont engagés mais qui sont plus ou moins pessimistes. On sait que on vous a donc filé un sac à dos avec 30 kilos sur le dos et qu'on vous demande de courir le marathon donc les uns les autres. Donc c'est pas très très simple, mais qu'est-ce qui donne quand même toujours envie, toujours espoir? Donc il y a le beau, il y a la nature.
Avant de revenir sur la question des jeunes, il y a souvent la question qui revient des récits. L'idée, c'est pas de se forcer à trouver le futur désirable et de se trouver le futur merveilleux. On va vers un effondrement de nos sociétés telles qu'on la connaît, vers une époque dramatique. L'idée, c'est de construire autre chose. Et j'étais tombée sur une phrase qui disait que l'humanité ne passe à l'acte que quand elle est habitée par ce qui n'existe pas. Alors je sais pas si c'est entièrement vrai, mais je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et il disait, voilà, des tableaux jamais peints, des livres jamais écrits. Et c'est ça qui doit nous motiver. Souvent, on parle d'écologie punitive, voilà, comme si on faisait que renoncer. Non, c'est qu'est-ce qu'on construit dans notre nouveau rapport au vivant, dans nos nouvelles valeurs.
On parle de récits du futur.
Voilà, de nouveaux récits. Mais pour répondre sur est-ce que tu observes les gens ou les jeunes en particulier, est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? Des fois, dans les manifs, il y a un slogan, je crois que c'est « consomme, travaille et ferme ta gueule », je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, ça redit encore la question de l'individu. Il y a souvent la question de les habits, les portables. D'accord, ne pas être dans le consumérisme, c'est quelque chose de très important. Mais comment faire qu'on est dans un contexte qui nous ringardise si on n'est pas dans le consumérisme?
Bien sûr, oui.
Je sais pas, je me mets à la place d'un jeune qui pourrait avoir envie d'aller vers un mode de vie plus sobre, mais s'il est entouré par des pubs, qu'on dit qu'il est ringard, ça va pas fonctionner, quoi. Donc... c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut d'autres récits et ringardiser ce qui n'a plus lieu d'être.
Ouais.
Voilà, enlever les pubs dans les villes, c'est pas toujours légal, mais la désobéissance civile, elle est importante parce que ça accaparait le bien commun, de détruire le vivant, de détruire
légal,
le futur. Mais c'est légal, mais c'est pas moral, c'est pas légitime. Or, il est illégal de faire de la désobéissance civile pour défendre l'humain et le vivant, mais c'est complètement légitime. Et donc, c'est ça que questionne la désobéissance civile et c'est très important.
Bonjour à toutes et à tous! On va vous expliquer pourquoi on est là. On est là pour réveiller les consciences et vous dire d'arrêter cette surconsommation. C'est une mascarade qui détruit la planète, qui détruit les écosystèmes, dont l'espèce humaine, qui nous met tous en danger.
Et nous empêcher.
Et c'est exactement ce que représente ce Black Friday.
On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat.
Bon, Victor, avant de se quitter, question classique, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Moi, personnellement, pas grand-chose, mais... Bah voilà, c'est pas une époque terrible pour la biodiversité, mais voilà, il y a l'émerveillement aussi, surtout. Il y a des ronciers qui sont là, on en a parlé tout à l'heure, bientôt en été ils vont fleurir. Il y a les pollinisateurs qui vont venir butiner, il y a toutes ces interactions entre les espèces. Voilà des choses anodines de la vie de tous les jours. Donc ce que je peux nous souhaiter aussi collectivement, c'est d'être attentif, d'être émerveillé, d'être percer cette bulle du renfermement sur nous-mêmes pour voilà, nous ouvrir au monde qui nous entoure, à cette richesse incroyable. Et je terminerai par ce qu'on peut nous souhaiter aussi collectivement, c'est de rentrer aussi collectivement dans la lutte, dans l'engagement pour ce vivant. C'est quelque chose qui est lié. Et moi, je suis pour une déferlante. Je suis pour qu'on déferle dans les rues. La révolte, ça doit se sentir dans l'air. La moindre banderole qui est accrochée devant sa maison, le moindre son d'un mégaphone, le moindre... Il faut qu'on multiplie toutes ces petites occasions qui font qu'on marque l'air d'une notion de révolte. Voilà, je sais pas, je vais peut-être un peu loin, mais qui pousse les gens à collectivement entrer dans la bataille pour une société qui a plus de sens.
Merci beaucoup, Victor.
Merci à toi, surtout.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, donc à la fois lucidité, hein, d'accord, pas d'accord, peu importe, mais en tout cas c'est très intéressant de voir la maturité donc, de ce jeune garçon, et surtout le vivant, la vie, voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, on a besoin effectivement de cette beauté, de cet émerveillement, de cette envie de protéger donc, tout cela, et de faire sien ou de faire sienne donc, cette nature. Vous retrouvez un peu donc... tout cela de Victor Noël dans cet ouvrage, hein, sur les chemins du vivant, carnet de route d'un jeune naturaliste engagé aux éditions Delachaux et Niesley. Merci beaucoup à Rémi Sissiaga qui a très bien mixé ce reportage, à notre collaboratrice Camille Blanès, à Juliette Gou qui a réalisé le tout. Thierry Dupin a choisi ces deux disques très très sympas. Alors la semaine prochaine, je vais vous emmener dans la Vallée d'Or, A-U-R-E. C'est la Vallée des Vents en fait. On va partir dans les Hautes-Pyrénées et on va rencontrer pas très loin de Saint-Lary donc Daniel Guilly qui est un bel accompagnateur, lui aussi donc un fou du vivant. Et puis alors bon, les podcasts vous en avez l'habitude, Bestiole aussi donc revient avec toute l'équipe, Stéphanie Fromentin, les auteurs, Brigitte Lecordier, etc. Voilà, donc vous pouvez vous régaler. Anne Yoro aussi qui est aussi la réalisatrice, que j'oublie pas. Et puis nous avons donc les paroles de Piaf. Paroles de Piaf, ça aussi. Alors ça c'est autre chose. L'application Radio France, les paroles de Piaf. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et donc à la semaine prochaine.
CO2 Mon Amour avec le WWF. Ensemble, sauvegardons les océans. Rendez-vous sur transmettre.wwf.fr.
Eh bien, c'est le moment de retrouver Antoine Otschao pour ses Bientôt Demain, l'instantané sonore des luttes écologiques et sociales à Grenoble, où les prochains Jeux Olympiques d'hiver de 2030 aiguisent les appétits et les inquiétudes. Bonjour Antoine.
Bonjour Denis, bonjour à toutes et tous. Oui, le CIO, Comité International Olympique, s'est même déplacé in situ cette semaine pour promouvoir la candidature des JO 2030 dans les Alpes. Et la semaine précédente, c'était le Salon International de la Montagne, le Mountain Planet en anglais, qui se tenait à Grenoble, très prisé des fabricants de canons à neige et moins des promeneurs amoureux des grands espaces naturels. Parce que plus la planète se réchauffe, plus la neige se raréfie et plus les sports d'hiver deviennent dépendants de solutions coûteuses, polluantes et non durables, mais qui peuvent rapporter gros.
C'est produit par l'électricité, mais c'est plus un système où on va pouvoir produire. Si je vous la fais courte, c'est un peu comme un congélateur où on va broyer de la glace et jeter de la glace. Il permet de faire de la neige avec des températures très élevées, comme vous pouvez le constater. Mais on essaie d'avoir un impact écologique moindre avec des panneaux solaires et des fonctionnements. Ah ben voilà. Et en plus, donc, vous pouvez mettre la glace pilée dans le jetpack, ça fonctionne.
C'est
ça, c'est bien.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Je vous rappelle aussi que si vous achetez un engin de damage, vous avez un burger offert.
Demain.
Ok, boomer.
France Inter.
Si vous voulez le café, il faut acheter le trolley.
Demain. C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Bonjour. Salut. Bon, ben voilà, un skieur sur béton.
Julia 2. Bonjour.
En fait, la neige artificielle, elle tient bien la chaleur. Il fait 20 degrés, t'as fait un mètre de neige compactée, ça tient. Par contre, la pluie, ça tient pas. Et ça, c'est pas prévu, quoi. C'est pas prévu. En 30 ans que j'habite là-bas, j'ai jamais vu un mètre de neige en décembre partir en 3 jours. À l'organisateur des JO qui avait bien voulu débattre, je lui dis, mais il va pleuvoir sur vos pistes. Qu'est-ce que vous allez faire? Je lui dis, vous allez mettre un toit et protéger vos pistes? Et bien, il m'a répondu, c'est une bonne idée. On pourrait mettre même des panneaux photovoltaïques dessus. En fait, nous, on lit l'avenir dans les rapports du GIEC, eux, ils lisent l'avenir dans les rapports comptables. C'est deux méthodes.
Et oui, il est remonté, José. Il est surtout inquiet pour sa montagne où il a grandi. Et le mercredi 17 avril, il ne voulait pas louper le rassemblement festif et convivial à l'appel d'Extinction Rébellion Grenoble et de nos JO 2030, avec une grande course de ski sur bitume et béton pour dénoncer l'artificialisation et la courchevelisation de la montagne. C'était devant Alpexpo, le parc des expositions de Grenoble, qui accueillait le Mountain Planet, salon des aménageurs et exploitants de la montagne, tout le matériel dernier cri en démo et en vente directe pour skier par toute température et domestiquer la montagne. Le clou du salon, le canon à neige qui fonctionne par température positive et qui fait aussi des glaçons pour l'apéro. Génial, mais devant l'entrée du salon, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. José Plucky, par exemple.
C'est bien. Bientôt demain sur France Inter.
Les engins de damage, nos amis les snowmakers qui sont là, on les salue avec la nouvelle cabine 15 personnes en mode XXL pour le staff, les secours, le matériel, les touristes bien entendu.
C'est un peu, toi, c'est le salon de l'agriculture pour les stations de ski, quoi. C'est un peu, toi, c'est...
Il y a des gros engins.
Voilà, l'alcool coule à flot. C'est là où les élus achètent un télésiège débrayable au double de ce qu'ils ont besoin. C'est là où il y a plein d'histoires de béton qui ont commencé. Donc, on pouvait pas le rater. Ah ouais, ils appellent ça l'aménagement de la montagne. Mais c'est plutôt le déménagement de la montagne parce que les habitants permanents... Vu que leur modèle c'est Courchevel sur toutes les Alpes, nous on va déménager quoi, on va partir. Eux ce qu'ils veulent faire c'est Courchevel, moitié Dubaï. Et puis alors le réchauffement climatique, ils ont un problème de déni quoi, là qui est impressionnant quoi. Les enneigeurs, et ça c'est préparer l'avenir. Il y a 80 routes qui sont éboulées au mois de décembre, mais on va construire des autoroutes pour aller plus vite dans le mur. Votre modèle, c'est Courchevel. Vous voulez faire Courchevel partout, mais vous le faites avec l'argent public et vous tapez dans les services publics. Tout ça pour de l'amusement. Vos enfants, vous allez leur expliquer comment, qu'au lieu de préparer l'avenir, vous avez construit des canons à neige. Vous allez faire comment? Vous allez leur expliquer quoi? Que vous étiez des champions du monde du déni climatique. Il faut toujours plus haut, plus cher, plus con. Il y en a marre des écolos. Allez, allez, 5 milliards. C'est quoi 5 milliards pour les JO d'hiver quand il n'y a plus d'hiver? Quelle bonne idée!
Et toi, t'as vu vraiment la vie changer dans la montagne?
Oui, oui, bah oui, avant c'était... Mais par exemple, tu vois, si on parle du ski, ils ont détruit le ski. Moi, j'aimais beaucoup le ski, les bosses, j'avoue. Hein, la descente à fond, à taquet. Et ben maintenant, en fait, ils ont mis des télésièges débrayables qui fait qu'il n'y a plus de queue en bas, mais il y a la queue dans la descente. Alors, vu qu'il y avait trop d'accidents, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? On leur a dit, vous allez mettre des coups de bulldozer. Donc maintenant, c'est tout plat, il n'y a plus de bosses parce que ça fait des accidents. Puis il y a trop de monde. En fait, avant, on faisait la queue en bas, ce qui était bien, puis on se tapait une belle descente, on se reposait. Et maintenant, on fait la queue dans la descente. Et même gratuitement, je ne vais pas dans les grosses stations, parce que c'est tout plat, c'est lisse, il y a trop de monde. Ça ressemble à un supermarché, il y a des écrans géants, il y a de la musique, des gens bourrés. Et en plus, c'est cher. Donc les gens, quand ils sont comme moi, ils vont dans les trucs sociaux, parce que moi, je suis une famille pas très riche. J'ai appris le ski, je suis devenu mordu parce que c'était gratuit. Et je suis allé skier après. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins de gens qui skient. Pourquoi? Parce que en fait, en supprimant tout ce qui permettait, en fait, par exemple, avant, dans les stations de ski, en intersaison où ils sont vides, les centres sociaux, ils leur faisaient les forfaits gratuits. Donc, il y avait le centre d'Aubervilliers qui venait, et les gens des banlieues, les comités d'entreprise venaient et ils skiaient gratuitement, hors saison. Et les gamins, ils apprenaient le ski, et puis il y en a plein qui prenaient le virus, et après, ça faisait des skieurs. Et à un moment, ils se sont dit, ils ont mis les comptables, tu vois, les mecs qui arrivent, qui réfléchissent avec des tableaux Excel, et leur ont dit, faites payer les centres sociaux. Et les centres sociaux, ils ont fermé. Tous les centres sociaux, des comités d'entreprise et des mairies de banlieue, tout a été vendu. Donc ils ont fait des promotions immobilières et d'un coup ils se retrouvent vides. Et puis ils se retrouvent avec des jeunes qui ne skient pas parce qu'ils n'ont pas appris. Et quand tu leur expliques ça, ils disent c'est pas grave, on les remplacera par des Russes. À l'époque c'était remplacé par des Russes et des Chinois qui viendraient. Donc il fallait construire des aéroports. Bon là ils ont un peu changé, surtout avec les Russes. J'ai eu un office de tourisme qui m'a expliqué, en fait, pour une semaine on peut faire venir les Chinois.
Alors, t'es venu à ski, toi aussi?
Oui. Ah oui, bien, moi, j'ai perdu mes skis. Mais ouais. Ils ont peut-être fondu avec la chaleur. Je m'appelle Anna et j'habite à Embrun. On se questionne quand même sur l'avenir du ski. Et surtout le fait que, plutôt qu'une adaptation, il faudrait avoir une vision de plus long terme. Et du coup, prévoir la conversion de la montagne. Et c'est pas du tout ce qui est fait actuellement. On sait que le permafrost est en train de fondre et que ça fait bouger les pylônes des remontées les plus hautes. Donc on s'est dit, pourquoi ils continuent à en poser, quoi.
Voilà, c'est vraiment des millions de gâchés. Et puis, bah, en plus, cet argent, c'est quand même de la subvention, c'est de l'argent public. Et puis, en parallèle, bah, avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'ils se disent, bon, bah, de toute façon, les petites stations ont fermé, les moyennes sont en train de fermer, tout se concentre sur les grosses qui vont se gaver encore plus. Donc, ils investissent à fond pour faire monter plus haut et relier les stations aussi entre elles. Il y a beaucoup de projets, en fait. Notamment, ils aimeraient relier le glacier de la Gironde aux deux Alpes, et voire même jusqu'à l'Alpe d'Huez. C'est toujours développer plus, mais pour une catégorie population de plus en plus réduite et sélecte, quoi. Et tout en continuant à exploiter les saisonniers, à leur faire des contrats précaires et de plus en plus courts. Voilà, sans qu'il y ait de ruissellement, comme diraient certains, pour la population locale.
Et voilà, ça se Courchevel. En fait, on est coincé entre Courchevel qui descend et la Côte d'Azur qui remonte. C'est pour ça que la montagne est rebelle, quoi. Elle était belle, mais on va être obligé de... C'est la gentrification, on va être obligé de partir, rentrer dans notre pays, le pauvristan.
Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant autant d'être belle, que l'expulsion vient d'arriver.
Tu fais DJ en même temps, hein, José, c'est ça?
Ouais, bah ouais, on a fait des goguettes militantes. On a remixé aussi Jean Ferrat, que la montagne est rebelle, avec des amis saisonniers des stations. Ouais. Une chanson, pareil, qui raconte l'histoire des saisonniers qui s'en vont peu à peu, chassés par la spéculation immobilière et le rêve du Courchevel universel.
Pourtant, la montagne. S'imaginer la transformer en fruits citadelle, vérifier tous assister.
Eh, va te faire loger ailleurs.
Y'en a marre des écolos, le réchauffement nous ment. Pascal Pro, président.
Pas un gramme sur le Vercors, pas un gramme dans le Vosges, pas un gramme dans le Jura, pas un gramme dans les stations à 1800 mètres, c'est pas grave, on continue.
C'est bien tôt demain. Antoine
Chao. C'est l'arrivée des trois champions, les champions du béton.
Sur France Inter.
Allez les jeunes, c'est pour vous les jeunes, ça va être super pour vous, votre avenir est tout tracé. Tout va bien aller les jeunes, c'est super.
T'as bien skié là, sur le béton là.
Je m'en reste encore un peu. Quand je suis né en 1968, c'était les Jeux Olympiques à Grenoble. Ma grand-mère avait brodé des anneaux olympiques sur mes langes. Donc ça veut dire que nous, dans les Alpes, on vit dans ce ski depuis notre naissance et que c'est un bonheur. Mais malheureusement, on en arrive à un point où il va falloir faire le deuil de beaucoup de choses. Et même moi qui ai participé aux Coupes du Monde, on est membre des équipes de France pendant longtemps, participé aux Jeux Olympiques à Vancouver, à un moment, on se dit il faut qu'on revienne à quelque chose de plus de proximité. Le sport, je continue à aimer ça, il n'y a pas de problème, mais malheureusement la neige, en ce moment c'est la fin, c'est un peu la fin. Alors c'est un problème économique, mais c'est un problème aussi de personnel, hein. C'est comme si on disait à un breton, la mer s'est retirée et puis tu peux plus faire du bateau. C'est dur à entendre, c'est très très dur à entendre pour la population, l'aspect économique, mais l'aspect humain aussi qui est derrière. Et malheureusement, c'est pas en faisant du déni que ça va arranger le problème, hein. C'est en le prenant à bras le corps, même si c'est déjà malheureusement bien avancé. Avant qu'ils nous prennent vraiment par la gorge. Et nous, dans les Alpes, cette année, tout le monde a été pris à la gorge. Tout ce qui se situe à moins de 2000 mètres d'altitude, on n'a pas travaillé, il n'y a pas eu de neige dans les stations, c'était la catastrophe. Bon, il reste en haute altitude, les stations. Mais alors là, c'est des stations très huppées, où ça, c'est vraiment une élite qui va dans ces stations. Le reste, ils ont juste les miettes. Moi, je vois le type de véhicule qu'on voit dans nos vallées qui circulent. Alors, il y a deux types de véhicules. Il y a ceux qui bossent, qui ont des petites voitures, et puis ceux qui profitent, qui ont des grosses voitures. Mais c'est vrai, on voit la différence entre l'été et l'hiver. L'hiver, c'est vraiment... on sent que ça coûte cher, la neige. C'est parce qu'il y a les infrastructures, il faut les faire tourner. L'été, on voit encore des gens de classe moyenne. Par contre, en hiver, on voit vraiment que ça reste... Pas que, mais en grande majorité. Et puis il y a ça, et c'est lié, le fait le phénomène des maisons secondaires. Alors je sais qu'il existe ailleurs en France, en Pays Basque, en Bretagne. Mais nous, dans les Alpes, avec le réchauffement en plus, beaucoup de gens qui ont des moyens, viennent racheter tout ce qui se fait dans les Alpes, parce qu'il fait un peu plus frais, hein, c'est aussi basique que ça. Et donc ils achètent les maisons. Et donc on se retrouve, moi dans mon petit village, on est 8 habitants. Hein. Et ben, on n'a plus que des maisons secondaires et il y a un gars qui vient de construire un chalet à 800 000 euros. Mais il n'est jamais là. Donc il y a tout ça qui est lié et ces Jeux Olympiques, ils ont cette vision. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas changer cette vision. Donc on sait, nous, ben, pour l'immense majorité des habitants des Alpes, ben, on ne va pas s'y retrouver, forcément. Il faut changer de paradigme. Et ces jeux, ils empêchent justement la bascule dans les têtes. Ils empêchent de changer de paradigme, de se dire « Attends, il faut qu'on voit les choses différemment, autrement ça ne va pas passer. » Et ça ne passera pas de toute façon. De toute façon, c'est bloqué. Et même quand on donne des données, nous, on est des lanceurs d'alerte, hein, quelque part. On n'est que là pour ça, pour dire ça. C'est le GIEC qui nous donne des chiffres. Il nous annonce 3, 4 degrés. Les Alpes, c'est un des endroits du monde qui se réchauffe le plus.
Tu veux bien te présenter ?
Stéphane Passeron, un des porte-parole de nos JO... puis ex-membre des équipes de France de ski nordique et qui est bien triste de ce qui se passe parce que mes enfants ils font des courses de ski et ils aiment ça et on n'est pas bien, c'est dur.
Bah nous vous savez on jette l'argent par les fenêtres, hein. C'est ça, de l'extérieur vers l'intérieur, mais bon ça va.
Alors ça y est, on plie l'action. La mobilisation, comment ça s'est passé? Alors toi tu parlais aux gens qui sortaient, hein.
Ouais, c'était intéressant parce que déjà, de physique, de l'apparence des individus, on pouvait un peu savoir d'où ils venaient et pourquoi ils y venaient. Alors déjà, c'était hyper multinational, ça, je trouvais ça hyper intéressant. Donc déjà, on voulait saisir les gens au vol et en français, ça marchait pas. Donc il fallait un peu dérouiller l'anglais, ça c'était bien. Et ce que j'en pense, c'est que ce qui revenait très souvent, c'était des gens en fait, qui vivent du milieu de la montagne et en fait, dont leur économie et leur gagne-pain est éminemment liée à ça. Et du coup, à chaque fois, ils nous mettaient en porte-à-faux de... de nous ramener à notre propre condition de salarié, quoi. Genre, tu travailles ou tu travailles pas. Si t'es au chômage, t'as pas de légitimité à dire quelque chose. Et si tu travailles, en fait, tu comprends que moi aussi, il faut que je travaille. Et du coup, c'était un peu un coupe net dans... ça ouvre pas du tout un peu une perspective plus large, je trouve. Parce que la réponse qu'on peut leur faire, c'est en fait, dans 10 ans, toi, tu travailleras plus. Si on en est vraiment juste sur le truc très précis du travail. Voilà. Et donc, ce que j'en pense, c'est que... On a rendu visible quelque chose, je sais pas auprès de combien de personnes, mais que de rien faire, c'était pas trop envisageable. A fortiori, quand on voit de l'extérieur, à travers ces grillages, et qu'on voit toutes ces énormes machines pour faire de la neige, pour détruire la montagne, enfin...
C'est abusé. Qui tourne en permanence.
Et toi, tu te mobilises depuis longtemps sur cette question de la montagne, de la vie ici
Là, je me mobilise pour un territoire sur lequel je vis momentanément, mais j'oublie pas que y a des usagers, usagères qui sont un peu plus légitimes que moi aussi. Donc c'est toujours ce truc de savoir d'où on parle. Je vis à Grenoble, donc en fait, il y a aussi des retombées de l'industrie du ski. Il y en a aussi à Grenoble. Et le fait de dire plus globalement, la montagne, c'est un peu un laboratoire pour la révolution socio-écologique. Parce que ce qui se passe en montagne aujourd'hui, en accéléré d'un point de vue réchauffement climatique et toutes les questions sociales, économiques qui se posent et qui en découlent, c'est ce qui va se passer à l'échelle nationale après, dans quelques années. Du coup, si on arrive à trouver des solutions ici, moi, je le vois grave comme, en fait, on pourrait l'appliquer, après, on pourrait l'étendre. Donc c'est un peu dans cette perspective que je me mobilise. Parce que c'est le territoire par lequel je suis entourée, même si j'en vis pas, et parce que c'est des solutions extensibles.
Merci.
Et toi, pourquoi t'es là ?
Et moi, pourquoi je suis là ? Et oui, c'est une bonne question, Camille, parce que je pense que c'est important d'aller sur le terrain, de donner la parole aux citoyens et citoyennes, même en colère, aux lanceurs et lanceuses d'alerte, aux précaires des stations de ski. C'est normal pour une radio de service public. Merci à tous les José, Camille, Stéphane, Anna et Victoria. Toutes les infos et toutes les goguettes rebelles des saisonnières des stations de ski sont sur la page de franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast. Après les infos, vous retrouverez Philippe Collin avec Simone de Beauvoir, Itinéraire d'une jeune fille rangée, 7e et dernier épisode.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 1er mai en ligne et le 3 mai en mairie. Puis rendez-vous aux urnes le 9 juin et le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Plus d'infos sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Du 26 avril au 8 septembre, venez découvrir l'exposition « Olympisme, une histoire du monde ». Une traversée historique et sportive, des combats et exploits qui ont façonné les Jeux et notre époque. Revivez 130 ans d'Olympiade au rythme de portraits d'athlètes, d'images mémorables et d'objets exceptionnels. « Olympisme » au Palais de la Porte Dorée à Paris, en partenariat avec Radio France.
Filmo, la première plateforme de streaming 100% cinéma. Classique, découverte, cinéaste d'aujourd'hui et de demain. Chaque mois, retrouvez des milliers de films des plus grands réalisateurs et réalisatrices. Avec Filmo, accédez au meilleur des cinémas. Des émissions exclusives, des films inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Osez les classiques, osez les découvertes, osez Filmo. Pour seulement 6,99€ par mois. Et en ce moment, profitez de l'essai offert et sans engagement sur filmotv.fr.
À midi et demi sur France Inter, c'est l'heure des solutions.
Moi, je suis toujours surprise de la force du collectif qui fait qu'on va ensemble, on va plus loin, plus fort.
Ben, faut y croire.
Des femmes, des hommes, des initiatives partout en France.
Moi, ça donne du sens chaque jour. J'ai l'impression d'être utile,
de montrer cette France qui est si douce.
Carnet de campagne, Dorothée Barba.
C'est joyeux, c'est concret et ça peut donner des idées.
C'était l'occasion de...